pas venu ici depuis 10 ans, et depuis son accident, et voilà, et qui a pu revenir aujourd'hui. On est très très heureux qu'il soit là, et puis on espère que ça va se renouveler. Et puis Alain aime beaucoup beaucoup les visites. Je crois que beaucoup pensaient qu'il avait quitté la région, mais non, il est là.
Nous pouvons aussi avoir une pensée et des prières pour nos frères et sœurs de Chambéry. Ils sont actuellement en Assemblée Générale, ou ils vont être en Assemblée Générale, je n'ai pas les horaires, mais et c'est une Assemblée Générale critique, vraiment critique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'enjeux. Comme quoi, il n'y a pas que des élections civiles, nationales qui nous intéressent, mais il y a aussi celles-là. Je ne les mets pas sur le même plan, ce n'est pas la même chose, bien évidemment, mais on peut aussi penser à nos frères et sœurs de l'Église protestante unie de Chambéry, de Savoie, en fait, ça s'appelle Savoie, et ils se retrouvent à Aix-les-Bains, donc Chambéry n'a pas... donc voilà. Je vous propose de poursuivre notre lecture des psaumes pour nous placer devant Dieu. C'est le psaume du jour, le psaume 123. Nous prions. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers les mains de sa maîtresse, nos yeux sont levés vers le Seigneur notre Dieu, attendant sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits et du mépris des orgueilleux. Pitié pour nous, Seigneur. Pitié. Nous restons assis pour chanter « De tous mes maux, il me guérit ». À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de source de la vie et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout se vend et tout s'achète, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos certitudes, de nos servitudes, pardon, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Ô ma joie et mon espérance, nous pouvons nous lever. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les humains. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur un support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux de tous les humains, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Amen. De ton esprit emplis nos êtres. Prenez place. Aujourd'hui, je n'ai pas retenu les lectures du jour. J'avais commencé, puis j'ai abandonné au milieu. Pas réussi. Ce sera pour un autre jour. J'ai choisi la seconde épître. Non, pas du tout, il n'y en a pas deux. L'épître à Tite, la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Mais avant d'écouter cette lecture, nous prions. Ô Dieu, les paroles qui nous viennent de toi sont esprit et vie. Implante-les dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre conscience. De telle sorte qu'elles nous inspirent vraiment et nous apprennent à vivre. Toi que Jésus le Christ nous a fait connaître, entendre et aimer, réveille notre attachement à toi. Donne-nous joie et recueillement dans la communion de ton Fils. Amen.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Pour ceux qui ont de la peine à s'en souvenir, l'épître à Tite est une petite lettre qui se trouve être l'antépénultième attribuée à Paul dans l'ordre canonique, juste avant celle à Philémon et aux Hébreux. Elle est le troisième ti de la phrase mémotechnique. Hein? Rococo, Galéfico, etc. Test, test, titi, fi, hébreu. Bon, pour ça, c'est le truc... Vous avez dû normalement apprendre ça un jour au catéchisme. Donc, c'est cette troisième épître. On ne la lit pas souvent, et pour être honnête, je crois que c'est ma seule prédication sur, euh,
sur l'épître de Tite. À Tite, pardon. Une question préalable, et qui me semble légitime, pourrait être pourquoi ? Pourquoi lit-on si peu cette épître ? Peut-être, même ces épîtres, celles qui précèdent pas beaucoup non plus, elles nous semblent souvent dépassées et moralisatrices. Et personne n'aime les moralisateurs. Personne n'aime recevoir de leçons d'un autre qui saurait mieux que soi ce qui est bien ou mal. À cette remarque, j'élèverai deux objections. La première, d'ordre général, c'est que si nous n'aimons pas qu'on nous fasse la morale, c'est sans doute que nous nous sentons en faute et que du coup, la morale vise juste. Il n'y a que la vérité qui blesse, dit l'adage. Si une parole moralisante nous gêne, posons-nous la question de savoir pourquoi. La seconde objection est quant à elle, concerne les fameuses épîtres dites pastorales, les trois T, 1 et 2, Timothée et Tite. Ces épîtres ne sont pas moralisatrices, elles sont exhortatives. Elles nous encouragent et nous poussent à aller plus loin sur le chemin de la vérité et de la vie. Alors oui, si l'on a un petit fond de culpabilité en soi, on peut les trouver moralisatrices, mais ce n'est pas la faute des épîtres. Comme le dit Jésus, « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» L'épître à Tite est un encouragement à un responsable d'Église et à travers lui à l'Église dans son ensemble. En effet, il semble que cette lettre était prévue pour être lue à l'Assemblée. Rappelle-leur d'être soumis aux princes, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, à ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant. Ah, ça fait tousser les gens, toutes ces exigences, mais je comprends. Et de faire toujours preuve de douceur envers les humains. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'injonction à être soumis aux autorités passe difficilement. Et je vais la mettre de côté, car son traitement à lui seul, mériterait toute une prédication, voire plus. Disons simplement, pour aujourd'hui, que c'est un appel à se conformer aux règles de vie en société. Pour le reste, tout exigeant que ce soit, cela n'a rien d'extravagant et est parfaitement conforme aux exigences formulées par les moralistes non chrétiens antiques. Alors, suis-je en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les préceptes moraux du monde et ceux proposés par l'auteur de l'Épître ? Non, bien sûr, il y a des différences. Si, bien sûr, il y a des différences. On pourrait chercher, ci et là, quelques nuances, mais on perdrait alors de vue l'immense différence qui ne se trouve pas dans les idéaux à atteindre, mais dans leur fondement et dans leur statut. Leur statut, pour commencer, n'est pas d'être des idéaux, mais des fruits de la grâce. Ce ne sont pas des buts à atteindre pour être pleinement humain. Pour le philosophe antique, alors là, évidemment, je simplifie tellement que ça en devient faux, on est d'accord, mais pour le philosophe antique, on ne devient humain, c'est-à-dire un homme, et j'insiste sur le mot homme, masculin, on devient un homme qu'en pratiquant les vertus et en les maîtrisant. Pour Paul, c'est parce qu'on est humain, c'est-à-dire fils ou fille adoptif de Dieu en Jésus-Christ, qu'on peut pratiquer ses vertus, ou plutôt ses dons. Ces fruits de l'esprit. Cette inversion des causes et des conséquences n'est évidemment pas sans rappeler la redécouverte du salut par la grâce au temps de la Réforme. C'en est le pendant incarné. La spiritualité du Moyen-Âge avait été si obsédée par le salut après la mort que la première Réforme, celle de Luther notamment, principalement, s'était concentrée sur cette question pour libérer les chrétiens de l'angoisse, de la peur de l'enfer. Il a fallu attendre la seconde génération, Calvin notamment, pour que les questions éthiques soient abordées de front. Calvin parle, à la suite de Paul, du travail de l'esprit en celui qui se convertit à Christ. Travail qu'il nomme régénération. Et qui, à la différence de la grâce, qui est instantanée, ne se déploie que dans le temps. On ne devient pas un être moral du jour au lendemain. Le protestant doit son image d'austérité à cette idée que celui qui est sauvé se comporte en personne sauvée, ce qui est inattaquable sur le fond, mais devient très critiquable lorsque cette vie morale repose sur la seule volonté de la personne en question. Quittons la Renaissance pour revenir à l'Antiquité contemporaine de l'Épître. Contrairement aux pensées de l'époque, la vie juste n'est pas réservée à une élite. Une élite d'êtres moralement et souvent socialement supérieurs, mais est donnée à celui ou celle qui se laisse transformer par la grâce donnée en Jésus le Christ. Alors vous trouverez peut-être que j'insiste un peu lourdement sur les masculins, féminins, ceux et celles, mais ce n'est pas pour juste répondre aux injonctions d'une époque et passer pour plus conscient que je ne le suis, mais pour bien marquer cette grande différence d'avec le monde ambiant d'alors. Bref, nous ne sommes pas, dans notre essence, en termes théologico-philosophiques, ontologiquement, différents des autres. Alors, en effet, l'auteur nous le rappelle, nous ne sommes pas, globalement du moins, une élite. Nous aussi, en effet, dit l'apôtre, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de plaisirs et de désirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous décessions les uns les autres. Bon, non, je ne t'en ai plus. Nous ne sommes pas, globalement, encore une fois, je ne veux vexer personne, faits d'une autre argile que nos contemporains non-chrétiens. Ce n'est pas tant notre mérite qu'une grâce reçue qui fait de nous des hommes et des femmes meilleurs. Meilleurs qu'avant, hein, pas meilleurs que les autres. Comme le dit une confession du péché que j'ai trouvée, nous ne sommes pas ce que nous devrions être, mais Dieu merci, nous ne sommes plus ce que nous étions. Arrivé à ce stade de la rédaction de la prédication, je me suis rendu compte que j'avais parlé de deux différences entre les morales mondaines et chrétiennes, le statut que je viens d'évoquer et le fondement que j'avais perdu en route. Si la morale mondaine, antique, pour faire de nouveau simple, hein, voire simpliste, est fondée sur une sorte de bien suprême, la vie chrétienne se fonde en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à respecter des valeurs, nous ne sommes pas attachés à un bien suprême, nous avons reçu un Dieu qui s'est fait proche et dont la vie peut nous inspirer. Attention toutefois, quand je parle d'inspiration, je ne cautionne pas la méthode éthique qui consiste à se poser la question avant chaque décision, que ferait Jésus à ma place? Et ce pour plusieurs raisons. La première est que je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas à sauver l'humanité. Deuxièmement, Jésus passe son temps dans les évangiles à nous surprendre. Il serait de la plus grande fatuité de ma part de prétendre savoir ce qu'il ferait dans telle ou telle circonstance. De toute façon, Jésus agit toujours selon sa conscience, c'est-à-dire justement sans se poser la question de savoir ce qu'un autre ferait à sa place. Donc se demander comment agirait Jésus à ma place, c'est déjà ne plus agir comme Jésus. Enfin, et vous l'avez entendu, lorsqu'on lui demande de résoudre des cas concrets, Jésus ne se contente pas de se dérober quand il le fait devant des questions théologiques, il refuse catégoriquement et sèchement de trancher. Dans l'évangile de Luc, à quelqu'un qui vient voir Jésus pour qu'il règle des affaires d'héritage, il répond « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Jésus n'est pas venu pour régler au cas par cas nos petits dilemmes, mais pour réparer notre relation à Dieu. Et une fois cette relation réparée, nous saurons comment agir. Il nous est tous arrivé d'agir de façon conforme à l'Évangile, et lorsque la question s'est posée de savoir pourquoi nous l'avons fait, la seule réponse a été parce que nous ne pouvions pas envisager de faire autrement. Vous l'avez sans doute remarqué depuis qu'on se fréquente, j'aime bien discuter, pinailler, prendre le contre-pied de mon interlocuteur, parfois avec une mauvaise foi perturbante. Rien ne m'amuse plus que de tout remettre en question. Alors c'est une attitude que les épîtres pastorales désapprouvent grandement. Mais si s'interroger sur ces certitudes est souvent nécessaire, Disséquer chacune de ces décisions morales à prendre est un échec spirituel. Il y a toujours de bonnes raisons pour bien agir, mais également pour mal agir. Vouloir rationaliser ses choix, c'est souvent vouloir justifier une décision déjà prise. C'est vouloir se justifier. Et se justifier, ça s'appelle le péché. Laisser Christ travailler en nous par son esprit ne signifie toutefois pas rester passif et oisif. Ce serait alors mériter le reproche que fait Peggy aux disciples de Kant. Ils ont les mains propres, certes, parce qu'ils n'ont pas de mains. Laisser Christ travailler en nous par son esprit signifie agir au cœur de ce monde qui est à la fois condamné et aimé par Dieu. Nous sommes appelés à ne pas nous y fondre, à ne jamais, à ne jamais nous en désolidariser. Nous vivons à la fois dans ce monde et en Christ. Mais c'est Christ qui nous rend vivants. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit-Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Et j'ajoute le verset suivant. Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile aux humains. Nous chantons le cantique 46-08, « Toi qui gardes le silence », page 721. 46-08, page 721.
garde le silence tout le jour, ô Seigneur, nous crions à la violence. Ne vois-tu pas nos souffrances? Es-tu mort, ô Seigneur? Es-tu mort, ô Seigneur? Tu partages nos souffrances sans un cri, ô Seigneur.
Je vous invite maintenant à vous unir à cette déclaration de foi adaptée de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte pour les brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus-Christ est le bon berger, il connaît ses brebis et elles le connaissent, comme le Père le connaît et comme il connaît le Père. Il donne sa vie pour ses brebis entendent sa voix et il les appelle par leur nom. Il les conduit dehors, il marche devant elles et ses brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Jésus-Christ est la résurrection et la vie, celui qui croit en lui vivra, quand bien même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le vrai cep et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Prenez place. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande.
Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux que tu nous as confiés. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces, Frédéric.
Tout d'abord, bonjour à tous, et puis merci d'être venus. Donc, je vais remercier Vincent tout d'abord pour nous avoir conduits dans ce culte, ainsi que Yvon Serge qui m'a aidé pour l'accueil.
Et Fred donc.
Et moi-même. Merci à Mathieu qui nous a soutenus dans les cantiques. Donc, au programme, nous avons la chorale donc à mardi 19h15 normalement. Le mercredi, vous avez la prière de 18h à 19h. Sinon, dans les divers, nous avons un jeune couple qui est à la recherche d'un appartement type T2, T3. C'est un jeune couple, un couple de jeunes adultes donc, qui sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. J'ai mis une petite affiche où en fait ils se présentent, vous verrez à l'entrée, où il y a leurs coordonnées, n'hésitez pas si vous avez quelque chose pour eux, ils cherchent sur le Grand Annecy. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu dans les newsletters de par le passé, il y avait une enquête qui était faite par l'Église protestante unie. Ils ont prolongé cette enquête jusqu'au 10 juillet, donc je vous invite, si vous avez la possibilité, de répondre à cette enquête. C'est une enquête qui est complètement anonyme. Mercredi, nous aurons un service funèbre pour Daniel Pieplu qui sera à 14h30. Et je pense que ça sera tout. Daniel Pieplu.
Daniel Pieplu qui est le père de Valérie. Alors, j'ai pas le nom de... ils étaient là au culte les, tous les deux il y a quelques semaines. Valérie fait partie de la chorale qui était venue chanter, qui a chanté avec nous aussi avec la chorale, donc elle est quand même un peu connue dans notre communauté. Mais j'ai pas le nom de famille, je suis désolé. Nous allons partager le pain et le jus de raisin, même si je l'appelle vin, hein, c'est du jus de raisin. Ah, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Je finis juste. Vous serez invité à faire un cercle. Chacune est invitée, s'il reconnaît Jésus comme sauveur, quelle que soit son appartenance ecclésiale ou son absence d'appartenance ecclésiale, quel que soit son sentiment d'indignité, elle est la bienvenue. Nous procédons, le pain est donné. C'est toujours la personne qui distribue, qui prend le pain dans le plat et qui vous le donne, pour des raisons d'hygiène. Les petits verres suivent, on consomme immédiatement et on le remet sur le plateau. Voilà.
Merci Vincent. Bonjour à chacune et à chacun.
Vous l'avez vu en arrivant ce matin au temple, il y a beaucoup de livres qui sont installés sur les tables. Alors je vous invite à les regarder, à les feuilleter, et surtout si vous pensez qu'ils peuvent vous intéresser, à les emmener chez vous, à les lire ensuite et puis à les faire circuler autour de vous. Je n'ai sorti qu'une petite partie des livres que nous avons. Donc, vous imaginez bien qu'il y en a encore plein dans le petit local à côté, que je vais laisser ouvert, parce qu'il y a des livres, mais également, on a également des CD classiques, jazz, variétés françaises, étrangères, et également des DVD. Donc, si vous voulez faire votre marché tranquillement ce matin, vous le pouvez. Voilà. C'est le temps des vacances, donc on est censé avoir un petit peu plus de temps pour ces loisirs-là. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Merci.
J'ajoute, puisqu'on parle de livres, au moment où nous ferons le cercle, je vous invite à venir avec votre cantique de chant, puisque nous terminerons en cercle. À moins que vous connaissiez le dernier cantique, tu nous appelles à t'aimer par cœur, donc vous pourrez venir sans. Parole du Seigneur, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Pour ce pain et pour ce vin sur la table, signe de l'immense simplicité des choses, pour ton Fils Jésus le Christ, ferment du monde et de nous-mêmes, nous te rendons grâce, Seigneur, en tissant de nos corps et de nos voix le chant d'une louange sans mesure. Car sans mesure est ta tendresse, sans mesure ta lumière, et l'espérance ouverte dans le Christ ressuscité. Il marche dans notre fragilité pour en dévoiler la promesse, il traverse nos peurs pour y révéler ta présence, et chaque fois que sa parole se met à parler en nous, chaque fois revient le souffle et rebondit la joie. Le dernier mot n'est pas à la mort, il est à toi qui es la vie. Aussi bien c'est avec tout ce qui se vit, et tout ce qui vit dans l'espace et dans le temps, c'est avec la soif de tous les hommes et les femmes d'aujourd'hui, que nous laissons monter du plus profond de nos cœurs le chant qui nous garde vivants. Seigneur Jésus, par ton esprit.
Voici comment le Seigneur a institué son repas. Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. Après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Il est venu pour que beaucoup soient pardonnés. » Seigneur, viens maintenant par l'Esprit habiter au plus profond de nos cœurs et donne-nous de discerner dans le signe du pain et du vin les signes de ta présence parmi nous. Nous sommes invités à cette table par le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle chacun, chacune de nous à le rejoindre par l'Esprit, là où il a promis de nous rencontrer, Faisons silence devant le Seigneur.
Heureux les invités à la table du Seigneur, venez et appréciez combien le Seigneur est bon. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant toi avec notre faiblesse. Mais tu as dit, heureux ceux qui ont un cœur de pauvre.
Dieu Sauveur, notre Père et notre Mère, que l'amour dont tu nous as nourris à cette table comble nos cœurs et nous incite à partager ta tendresse avec tous nos frères et nos sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, tu as dit, bienheureux les pauvres. Nous te prions pour tous les pauvres de la terre, quelle que soit leur pauvreté. D'abord ceux qui sont à nos côtés. Que leur pauvreté ne les conduise pas à te maudire, mais leur apprenne à dépendre de plus en plus de toi, qui donne tout. Ils sauront en vérité que le royaume des cieux est à eux. Seigneur, tu as dit, bienheureux les affligés. Nous te prions pour tous ceux qui pleurent, quelles que soient leurs larmes, qu'ils connaissent que c'est dans ton amour de Père qu'ils les versent. Garde-les de toute amertume, car en vérité, tu les connais, tu les consoles. Seigneur, tu as dit, bienheureux les doux. Et nous te prions pour tous ceux qui, au milieu d'un monde de violence, ont à cœur de garder cette douceur pour gagner le monde à ton royaume d'amour. En vérité, ils auront la terre en partage. Seigneur, tu as dit, bienheureux les affamés et assoiffés de justice. Fais connaître à tous ceux qui crient que la justice règne, que tu entends, que tu entends et reçois leurs cris, et qu'en vérité, ils seront rassasiés. Seigneur, tu as dit, bienheureux les miséricordieux, et nous te prions pour ceux qui, à ton image, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, reçoivent leurs frères et sœurs avec miséricorde et tissent ainsi des liens d'amour, plus forts que la haine, plus forts que la vengeance. En vérité, ils obtiendront miséricorde. Seigneur, tu as dit, bienheureux les cœurs purs, et nous te prions pour tous ceux qui, au milieu de ce monde perverti et dévoyé, se gardent purs parce qu'ils sont reconnus dans la pureté une réelle valeur de la vie. En vérité, ils te verront, ô Dieu, et ils annoncent déjà la manifestation de ton œuvre en ce monde. Seigneur, tu as dit, heureux les artisans de paix. Nous te prions pour tous ceux qui œuvrent pour la paix dans l'Église et dans le monde. Qu'ils soient encouragés et fortifiés dans leur combat par cette certitude renouvelée qu'ils sont appelés fils de Dieu. Seigneur, tu as dit, bienheureux les persécutés pour la justice. Et nous implorons ton secours et ta présence auprès de tous ceux qui sont torturés pour leur foi et leurs opinions. Soutiens-les, Seigneur, afin qu'ils n'abjurent pas, et délivre-les du mal. À eux, en effet, revient le royaume. Tout cela, nous te le disons et nous te le demandons au nom de ton Fils, lui qui nous a enseigné à te dire, notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles.
Alors j'ai choisi comme envoi un texte pour le début des vacances. Alors il n'y a rien dans l'extérieur qui nous laisse imaginer que c'est des vacances, mais tant pis. Il y a la mer, quand tu y plongeras, tu sauras un peu ce que veut dire renaître. Il y a le soleil, quand tu te brûleras le corps, tu sauras un peu comment Dieu te connaît et t'aime. Il y a le vent, quand il te décoiffera, tu sauras un peu que l'esprit souffle où il veut. Il y a le sel, quand tu le goûteras sur tes lèvres, tu sauras un peu que la vie est à un coup. Un goût que tu ne soupçonnais pas. Il y a le silence. Quand tu parviendras à l'écouter en toi, tu sauras un peu du secret du monde. Il y a le sable. Quand tu le laisseras couler entre tes doigts, tu sauras un peu le temps qui passe et la patience de Dieu. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Tu nous appelles à tes vies.
Fidèle, ton et nous, en vivant le monde.
tous, passez un bon été.